Vous êtes sur RTL.
13h, 14h,
Focus Dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Dimanche, l'émission avec ceux qui font l'actualité de la semaine. Chaque jour sur l'application RTL, vous avez rendez-vous avec Focus, le podcast quotidien de la rédaction qui développe un titre de l'actualité. Chaque dimanche, on se retrouve avec les personnalités qui font l'actu de la semaine. Aujourd'hui, 4 entretiens. C'est un message fort envoyé par les médecins libéraux en France. Une grève historique. Jeudi, pour alerter le gouvernement sur la revalorisation des consultations, un médecin se confie dans Focus Dimanche sur son ras-le-bol. Depuis plusieurs années, Vladimir Poutine envoie des espions en Europe pour compromettre des cibles, influencer l'opinion publique et instrumentaliser les anonymes. Romain Mielcaret, qui est journaliste d'investigation, il a enquêté sur les espions de Moscou. Il est mon invité. Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de changement de nom a été simplifiée. 1,8 million de Français pourraient être intéressés. Julia et Enzo ont d'ores et déjà changé de nom. Vous saurez pourquoi dans quelques secondes. Ils témoignent dans Focus Dimanche sur cette loi avec la chanteuse Nolwenn Leroy. La Fédération Française de Football refuse que les joueurs de l'équipe de France portent le brassard contre les discriminations, le brassard One Love au Qatar. Et pourtant, des présidents de clubs amateurs ont reçu l'ordre de porter ce brassard en match. Deux présidents amateurs prennent la parole dans Focus Dimanche. Ils sont en colère.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
C'est un message fort envoyé par les médecins libéraux en France. Une grève historique jeudi pour alerter le gouvernement sur la revalorisation des consultations. Des soignants en colère, un médecin se confie sur son ras-le-bol. Bonjour Didier Dehaut.
Bonjour.
Didier Dehaut, vous êtes médecin généraliste à Longuenès dans le Pas-de-Calais depuis 1995. Pourquoi jeudi dernier on a assisté à une grève historique, une grève exceptionnelle?
Alors c'est dû à un ras-le-bol cumulé de plusieurs années de dégradation de l'exercice de la médecine libérale, en particulier surtout pour les médecins généralistes.
Quelles demandes vous effectuez au gouvernement, au ministre de la Santé François Braun? Vous espérez, vous attendez, vous exigez même une revalorisation du tarif de la consultation?
Alors tout à fait, pour être fort et clair, nous avons des honoraires bloqués depuis au moins 2002, où la consultation pour rappel était à 20 euros. Là, on est à 25 euros en 2022. Et même si elle passait à 30 euros, les honoraires vont être bloqués jusqu'à la fin de la convention, c'est-à-dire 2028-29. Donc, nous sommes médecins libéraux. Ce que nous demandons clairement, puisque nous avons des forfaits versés par la Sécurité sociale en fonction des tâches administratives qu'on applique. En bref, la consultation actuellement est en valeur de 41 euros, dont 16 euros versés à la libre convenance de la Sécurité sociale en complément des 25, soit 41. Actuellement, ce que les gens ignorent. Nous voulons, en tant que médecins libéraux, avoir les 50 euros disponibles dont nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes libéraux, donc nous savons gérer des entreprises. Je ne sais pas combien de personnes décideurs ont elles-mêmes géré une entreprise au moins 3 mois. Mais nous, nous avons le sens de la responsabilité. Nous avons le sens de l'organisation. Et en même temps, nous savons faire. Donc tout ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse faire. Pour le moment, on est contraint à des normes administratives de pire en pire, mais qui compliquent l'exercice plutôt que le facilitent. Ça n'a aucun intérêt.
En fait, en clair, vous demandez, aujourd'hui la consultation est à 25 euros, vous espérez la faire passer à 50 euros pour rattraper la moyenne européenne qui se situe à 46 euros, c'est ça?
En résumé, tout à fait. Dont les compléments versés par la Sécu, qui sont des forfaits, qui n'apparaissent donc pas aux gens, hein, puisqu'ils payent 25 euros, et c'est la Sécurité sociale qui nous les paye en complément, variable.
Et l'une des raisons qu'on peut entendre, c'est que vous souhaitez embaucher des collaborateurs comme partout en Europe et surtout passer moins de temps sur des tâches administratives pour vous préoccuper des patients, c'est ça, c'est le plus important?
Ça me paraît le primordial dans un système de soins, que le médecin fasse de la médecine et pas de la paperasserie.
Didier Dehaut, 25 oui. millions de Français qui vivent dans un territoire où l'offre de soins libérale est insuffisante, avec cette valeur de l'égalité en France, l'offre de soins qui doit être égale pour tous les Français. Vous l'avez vu venir, ce fléau des déserts médicaux, ça a évolué et dans le mauvais sens.
Tout à fait, on l'a vu venir il y a au moins 20 ans. Donc maintenant, les politiques font semblant de découvrir qu'il manque de médecins, alors qu'eux-mêmes le savent depuis au moins 2012. Quelle solution concrètement apporter? Mais il y en a justement dans les 50 euros qu'on demande. À l'heure actuelle, vous avez un vivier de médecins jeunes, qui sont remplaçants, mais qui ne veulent pas s'installer. Pourquoi? Parce que quand ils voient les normes administratives auxquelles on est confronté, quand ils voient la valeur de l'acte à 25 euros, ces jeunes médecins, et avec raison, se disent qu'ils peuvent ou remplacer transitoirement, c'est-à-dire travailler 6 mois par an ou 7, ou maintenant commencent à s'exiler. Donc dans les 50 euros versés, je pense que les médecins remplaçants, qui doivent être à peu près 12 500, vous avez 12 500 médecins jeunes qui sont immédiatement mobilisables. Si vous mettez 50 euros, ils vont s'installer, mais il faut être libéraux.
Attendez, Didier Dehaut, ça veut dire que vous dites qu'aujourd'hui, il y a 12 500 médecins remplaçants, si demain on passe la consultation à 50 euros, qui sont capables d'aller s'installer dans la Nièvre, dans le Loiret, dans le Cher, pour venir aider ces Français qui en ont besoin et qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui pour se soigner?
Si vous mettez une consultation à 25 euros pour venir travailler dans les conditions actuelles, ils ne viendront pas. Si vous les mettez à 50 euros libres complètement, c'est-à-dire comme moi j'ai eu la chance de connaître la médecine en 1990 libérale, si vous mettez 25 euros, vous n'aurez pas les jeunes. Surtout si vous les contraignez à aller dans les déserts. La contrainte ne sert à rien. Oui. Comment voulez-vous mettre un jeune médecin qui est soi-disant en quatrième année d'études, c'est-à-dire en dixième année d'études réelles, hein, s'il est en quatrième année après son diplôme? Pourquoi voulez-vous que ce médecin qui est étudiant, donc comme il est étudiant, il est payé par la faculté environ 2000 euros par mois, comment voulez-vous l'envoyer dans le désert, comme j'ai entendu dire, en le payant 5000 euros? Parce que l'hôpital dont il dépend va refuser de payer 5000 euros. C'est même pas ainsi qu'est payé un praticien hospitalier diplômé qui est recruté en débutant à l'hôpital.
Il y a un autre sujet qui vous agace et qui agace vos collègues, et on le comprend, Didier Dehaut, ce sont ces 28 millions de rendez-vous non honorés par les Français auprès de leurs généralistes. Là, on assiste vraiment à un petit scandale, Didier Dehaut.
C'est exact, il y a 28 millions de rendez-vous non honorés, ce qui représente l'équivalent de 4000 médecins temps plein. Hein. D'accord, en temps de consultation, 4000 médecins.
Par an, 4000, c'est énorme.
Je vous ai dit que le vivier de remplaçants disponibles était de 12 500. Donc, 4 000, ça fait le tiers de cette réserve qui est perdue avec des médecins actifs.
Didier Dehaut, vous êtes installé dans le Pas-de-Calais depuis 1995, c'est ça? Combien d'années de carrière?
Alors, je suis médecin depuis 1990, 32 ans de médecine générale.
Vous êtes d'accord avec moi, Didier Dehaut, sans aucune forme d'irrespect, hein, je vous pose la question, votre carrière est plutôt derrière vous que devant vous?
Ça dépend. Maintenant, on parle de 72 ans à la retraite, donc j'ai encore un certain nombre d'années. Mais pour rigoler, je comprends le sens de votre question.
Je vais vous poser une question par rapport à la suite. Le système de soins français était réputé, très connu, l'un des meilleurs au monde. Quand vous voyez arriver vos nouveaux collègues qui ont 25 ans, 27 ans, 28 ans, 30 ans, et qui s'installent...
C'est leur laisser en héritage les conditions d'exercice qu'on avait avant l'an 2002. C'est-à-dire, un médecin est libre en prescription, il répond de ses prescriptions devant la sécurité sociale. Hein. Mais un médecin, il voit un malade. En âme et en conscience, et professionnellement et scientifiquement, il est formé. Donc à partir de là, il doit être libre de prescrire ce qu'il veut, comme il veut, et à la vitesse qu'il veut, et autant de fois qu'il veut, librement. C'est ça qu'on avait, et c'est ça qui est en train d'être mis sous tutelle, de manière plus ou moins déguisée. Est-ce que les Français ont conscience que le jour où les médecins sont sous tutelle ou des médecins salariés, en fait, ils auront perdu le libre accès aux médecins traitants de leur choix. Ce qui est pour le moment, et c'est pour ça où nous nous battons également, c'est pour les patients. C'est beau de parler que des médecins, on a l'impression que c'est unique, mais non. Les patients sont impactés par la réforme de la loi HPST de Mme Bachelot, l'initiatrice, et Mme Touraine, qui l'a modifiée profondément en 2016, avec la loi Hôpital-Patients-Santé-Territoire, où les hôpitaux sont devenus des prescripteurs et autoprescripteurs de soins, indépendamment des courriers des médecins traitants. Ce dont chacun de vos auditeurs peuvent se rendre compte. Ils sont appelés à l'hôpital, il n'y a pas besoin, dans des services, il n'y a pas besoin d'un courrier du médecin traitant. Et quand ils sortent, ils peuvent être reconvoqués dans un autre service sans courrier du médecin traitant.
Merci beaucoup Didier Dehaut, merci à vous d'avoir été l'invité de Focus Dimanche.
Merci beaucoup.
Bon dimanche à vous. On passe de l'hôpital français à la diplomatie, à la géopolitique et surtout au monde de l'espionnage. Vladimir Poutine est un ancien espion du KGB. Il n'a pas oublié sa première carrière depuis plusieurs années. Le tsar russe envoie des espions en Europe et notamment chez nous, en France. L'objectif est simple, troubler les démocraties occidentales. Romain Mielkarek a enquêté sur les pratiques des services secrets russes. Il est mon invité dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
13h, 14h.
Focus dimanche sur RTL.
Avec Mohamed Bouafsi.
Vladimir Poutine est un ancien espion du KGB. Il n'a pas oublié sa première carrière. Depuis plusieurs années, le tsar russe envoie des espions en Europe et notamment en France. L'objectif est simple, troubler les démocraties occidentales. Romain Mielcarec a enquêté sur les pratiques des services secrets russes. Il est mon invité. Bonjour Romain Mielcarec.
Bonjour.
Vous publiez Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes. C'est passionnant. Votre livre se lit comme un roman d'espionnage. Pourtant, c'est la vraie vie. Racontez-nous pourquoi avoir enquêté sur les espions russes.
Alors j'aimerais bien vous dire que c'est parce que, journaliste talentueux que je suis, j'ai eu la bonne idée, sauf qu'en fait pas du tout. C'est eux qui ont décidé de venir vers moi, qui ont tenté de me recruter et qui se sont dit que peut-être j'étais une cible manipulable. Je me suis dit que l'occasion faisait le larron. Et donc il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler sur ce sujet, à suivre à la fois les officiers de renseignement russes en France et les Français qui étaient chargés de lutter contre eux.
Comment ils vous ont contacté et pourquoi ?
Les services russes sont extrêmement offensifs en France, extrêmement agressifs. Ils ne se cachent pas, ils ont un fort sentiment d'impunité et ils n'hésitent pas à aller partout au contact de gens qu'ils pourraient recruter. Dans mon cas, je suis à l'époque un jeune journaliste, j'anime une conférence où on parle de l'utilisation des armes chimiques en Syrie. Et à la fin de la conférence, il vient très naturellement vers moi, me donne sa carte de visite, se présente comme un diplomate et me dit « Je viens d'être affecté à Paris, j'aimerais rencontrer du monde, mieux comprendre ce qui se passe ici. » Et à ce moment-là, je me dis « Pourquoi pas ? Ça pourrait être, pour moi-même, une source intéressante. »
Ils vous ont contacté alors que vous étiez journaliste. Ils prennent un risque pourtant.
Alors pas tant que ça, les journalistes sont assez souvent des cibles qui ont tendance à se laisser tenter par ce type de dérive. Dans l'histoire des services de renseignement, et en particulier dans l'histoire des services de renseignement soviétiques puis russes, il y a eu beaucoup de recrutements de journalistes, notamment en France, qui ensuite ont été enclins à relayer leurs messages, à relayer leurs bonnes paroles, voire dans certains cas extrêmes, à essayer de récolter pour eux de l'information.
Assez rapidement dans votre livre, vous nous présentez le profil de Serge et vous expliquez que la Russie apprécie plutôt la France, même si on peut penser qu'il déteste l'idéologie de notre pays, notamment nos valeurs.
Ce qui est certain, c'est que mon premier Sergueï, dans un Paris un peu cosmopolite,
Sergueï pour, en russe,
il n'est pas très à l'aise.
Ouais.
C'est quelqu'un qui est homophobe, c'est quelqu'un qui est extrêmement raciste, et il passe son temps à me signifier toutes les difficultés qu'il a à apprécier ce qu'il observe dans la rue tous les jours, qui pour lui est en décalage avec l'imaginaire qu'il avait. La Russie, à mon sens, apprécie la France parce que la politique française est fragile, ne prend pas en considération ce risque, cette agressivité des services de renseignement. Et les dirigeants français sont, au cours des 10 dernières années, convaincus qu'ils arriveront à négocier avec Vladimir Poutine, malgré les alertes qui leur sont envoyées par les services de contre-ingérence.
Vous le dites, on a minoré le danger de la Russie.
Les politiques l'ont ignoré, les services de renseignement,
la DGSI... Parce qu'on a toujours essayé de faire ami-ami, j'ai envie de dire, avec la Russie. Ça a été le cas de Nicolas Sarkozy. Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine en France aussi. On a essayé, on a été trop gentil avec les dirigeants russes.
La DGSI, elle, a toujours observé sur le terrain cette action des services de renseignement. Elle l'a documentée et elle a fait remonter les alertes. Mais au plus haut de l'État, on a estimé que tout cela n'était pas suffisamment menaçant, suffisamment dangereux pour en faire une priorité. Et effectivement, on a continué d'essayer d'entretenir des liens très positifs avec la Russie de Vladimir Poutine, là où sur le terrain, il y avait un véritable décalage en termes d'affrontement des intérêts.
Le déclic, c'est la guerre en Ukraine, Romain Mielcarec. La France, comme la plupart des pays européens, ont expulsé plus de 400 espions, diplomates ou personnes ayant une forte proximité avec la Russie. On a trop attendu ?
Oui et non. Le déclic n'est pas la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, elle a commencé en 2014.
Ouais.
Et depuis 2014, les officiers de renseignement russes continuaient de défendre leur message. Et ça a marché auprès de certains politiques. L'invasion de février a effectivement été un moment où les Français ne pouvaient plus continuer d'ignorer cette menace. Et où là, il a fallu massivement expulser des gens qui se faisaient passer pour des diplomates, mais qui, pour la plupart d'entre eux, en fait, combattaient directement sur le territoire français les intérêts français.
Ils collectaient des infos en gagnant la confiance, liaient des fausses amitiés en flattant leurs interlocuteurs. C'est leur méthode, la faille d'ego, les jeunes ambitieux. C'est ça la méthode. Comment on aborde une potentielle source ?
Ça dépend totalement de la source. En fait, ils font un travail d'analyse de la personne qui les intéresse. Si vous, ce qui vous parle, c'est le football, les soirées un peu distinguées sur des rooftops élégants, c'est ce qu'on vous proposera comme type de rencontre. Moi, je suis, disons, quelqu'un d'un petit peu rustique et baroque.
Moi, j'ai que le football. Hein,
donc, quand on vient vers moi, on me propose des soirées très alcoolisées dans des bars un peu sordides, dans une espèce de rite de virilité qui, pour le coup, aux officiers du service de renseignement que moi, je côtoie, la guerre ou le renseignement militaire, ouais, est quelque chose de très naturel. Ce sont souvent des gens qui viennent de régions assez reculées en Russie. Ce sont de gros bourrins. Et donc, les beuveries jusqu'à pas d'heure, c'est quelque chose qui, eux, leur plaît. Et donc, avec moi, ça fonctionne. Et c'est ce qui fait qu'on a des échanges que d'autres gens n'ont pas eu, d'autres Français approchés, n'ont jamais eu ce type de relation.
Vous expliquez parfaitement bien que les services russes pratiquent l'ingérence dans les pays européens. On retrouve leurs pratiques à tous les niveaux. Lobby, réseaux politiques, réseaux sociaux, mais aussi chez les anonymes. Au quotidien,
je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Nous sommes dans un pays où nous n'avons aucune culture du renseignement. On ne sait pas ce que c'est que le renseignement en France. Et je pense que pour beaucoup de nos auditeurs, il va y avoir le sentiment que c'est quelque chose qui concerne les dirigeants politiques, les militaires, les vendeurs d'armes. C'est quelque chose qui finalement est assez lointain. Mais les Russes, en réalité, travaillent également sur des réseaux associatifs que l'on va croiser dans la vie de tous les jours. Alors, beaucoup d'associations mémorielles, mais ils vont aussi travailler sur des partis à un niveau plus local, etc. Et en réalité, pour eux, approcher des gens du quotidien, c'est extrêmement intéressant. Je donne un dernier exemple parce que il est très, très sensible. Une cible très intéressante pour eux, ça va être le petit fonctionnaire qui travaille dans une préfecture, qui va pouvoir signer des papiers, signer des papiers d'identité, et qui sera quelqu'un de très intéressant pour eux parce que c'est cette personne qui pourra les aider à comprendre comment on fabrique une fausse identité en France. Comment on fait pour crédibiliser un profil de clandestin, d'illégal, sa fausse identité lorsqu'il travaillera après.
On est tous en danger, en clair, face aux services russes. Mi-octobre, la Direction Générale des Services Intérieurs, la DGSI, avait alerté sur la présence des espions russes, des liens avec la Russie sur les sites internet, notamment Le Bon Coin.
Sur Le Bon Coin, ce qui les intéressait, c'était des jeunes étudiants qui donnent des cours et ils utilisaient ce canal-là pour aller jusqu'à ces personnes, pouvoir nouer une relation, commencer à comprendre qui ils sont, ce qui les intéresse, quelles sont leurs failles, pour potentiellement essayer par la suite de les recruter.
Et sur les liens politiques, on a beaucoup parlé de la Russie, avec notamment le Rassemblement National, des allégations qui ont été à plusieurs reprises démenties par le Rassemblement National, par la voix de Jordan Bardella, de son président, ou encore de Marine Le Pen. Il y a vraiment des liens forts entre la Russie et certains de nos politiques en France ?
Alors, à l'extrême droite, il y a une espèce de fantasme de la Russie qui serait naturellement une alliée, qui serait le défenseur de certaines valeurs, d'une certaine identité européenne, chrétienne, blanche. C'est un énorme fantasme sur lequel les Russes jouent. En réalité, la Russie en tant que telle, c'est un pays qui est extrêmement divers en termes de population, de religion, de langue. Donc, à l'extrême droite, c'est ça qui va mobiliser, qui va parler. Et puis à l'extrême gauche, il y a encore la croyance, plutôt un héritage historique de la guerre froide.
Lié au communisme aussi.
Voilà, que la Russie est un petit peu le rempart contre l'impérialisme américain. Les Russes, eux, bah les deux leur vont.
Ouais.
Si leurs interlocuteurs ont envie de dire que ce sont des chrétiens avec des valeurs un petit peu à l'ancienne, ils feront semblant d'être ça. Si leurs interlocuteurs ont envie d'entendre qu'ils sont le rempart contre l'Amérique, ils raconteront la même chose.
Sur les réseaux sociaux, les services secrets pratiquent ce que l'on appelle des bots. En clair, ils créent des milliers de comptes sur Twitter, sur Facebook, pour entraîner des raids numériques. On le sait, il y a eu cette pratique aux États-Unis, notamment lors de la campagne présidentielle. En France, il y a eu des tentatives sur la dernière campagne présidentielle ou celle de 2017?
Alors oui, sur les différentes campagnes, ça a été documenté. Sur la dernière, pas tant que ça, il n'y a pas eu de choses massives. La manipulation de l'information, c'est quelque chose de très important, ne serait-ce que parce que, en apportant une autre version, ils vont semer chez leurs interlocuteurs un doute. Et pour beaucoup de gens, on n'a pas le temps et la disponibilité pour passer des heures, des journées à vérifier, à relire des documents, à creuser, etc. Et donc, un des travaux de mes interlocuteurs en France, c'était d'aller voir leurs différentes sources, des journalistes, des chercheurs, des politiques notamment, pour leur dire, en fait, non, tout ce que vous croyez savoir sur la Syrie, c'est faux. Tout ce que vous croyez savoir sur l'Ukraine, c'est faux. Et à proposer cette nouvelle version que l'on retrouve, qui germe dans les esprits de beaucoup des gens qui ont été approchés par ces espions.
Vous le dites, on est loin des fantasmes du cinéma et de la littérature. En clair, ces espions russes, c'est pas des versions améliorées ou pas de James Bond. Ils ressemblent à quoi ?
Ça dépend lesquels. Il y a toutes sortes de physiques qui ressemblent à des Russes. Alors, il y en a qui ressemblent à des gros bourrins venus du fin fond de la forêt. Il y en a qui sont des gens parfaitement urbanisés, qui lisent des bandes dessinées, qui parlent un anglais incroyable. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un service de renseignement, ce n'est pas ce que l'on voit dans les films, dans les séries ou dans les livres. Un service de renseignement, c'est une administration avec des contraintes en termes de ressources humaines, en termes de parcours de carrière, en termes de moyens financiers, humains. Et donc, vous retrouvez dans cette administration-là exactement les mêmes difficultés que dans n'importe quelle autre. Et notamment des gens qui sont plus ou moins talentueux, plus ou moins compétents, plus ou moins fatigués, plus ou moins tirés au flanc.
Il y a un personnage que l'on retrouve très souvent dans votre livre, c'est Vladimir Poutine, le président de la Russie. Il a été espion, Vladimir Poutine. Il a croisé sans doute le chemin de Sergueï Zhirnov, un autre espion de la Russie. Il en parlait il y a quelques jours.
On rentrait la même année dans l'école qui prépare les espions, qui s'appelle l'Institut Andropov. On ne savait pas qu'il allait devenir un dictateur parce que c'était un mauvais élève. C'était un élève très moyen. Alors, ce qu'on savait déjà, et ça c'est quelque chose de très important, parce que quand il a fait ses études, donc il a fait une année d'études, et à la fin de l'année d'études, il y a une évaluation. Et l'école a mis dans cette évaluation, Monsieur Poutine n'a pas le sens de danger. Il n'a pas peur, il n'arrive pas à comprendre quand c'est dangereux ou pas dangereux, et donc il représente un danger pour lui et pour nous. Et nous n'en voulons pas. Et lui, il a gardé ça, il a gardé de la rancune, mais pourtant, cette qualification du service d'espionnage s'est révélée juste. Parce que maintenant, quand il sort les armements nucléaires et quand il menace le monde entier avec la Troisième Guerre mondiale, bah là, on sent qu'il a... Il est pas bien, hein, quand même.
Sergueï Zhirnov qui parle de Vladimir Poutine, un mauvais espion. C'est une bonne définition puisque il n'a pas peur.
Il y a débat sur la carrière de Vladimir Poutine.
Qui a réussi selon lui ?
Je crois que ce qui est intéressant, c'est que souvent, les écrits sur les services de renseignement sont écrits par des gens qui sont passés par ces services de renseignement. C'est le cas de Monsieur Zhirnov. Donc il y a toujours cette tentation de d'écrire quelque chose d'assez glorieux, d'assez prestigieux. Moi, ce que j'ai observé, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt le bal des médiocres. On est vraiment dans des grandes administrations où des gens plus ou moins incompétents se faufilent plus ou moins haut dans la hiérarchie et tentent de se faire une place au soleil. Monsieur Poutine, effectivement, n'a pas laissé un souvenir inoubliable en termes de renseignement. C'est un bandit. C'est quelqu'un qui a réussi par la force à se faire une place au pouvoir. Monsieur Zhirnov, il n'a pas eu non plus une carrière exceptionnellement longue. Il a fait le choix assez curieux de se réfugier en France, qui est quand même pas la destination de premier plan pour beaucoup d'espions. Pourquoi ? Parce que historiquement, on n'a pas su protéger les gens qui ont coopéré avec nous. L'affaire Farewell est un cas d'école. L'espion à l'époque soviétique qui avait décidé de trahir son pays pour rejoindre la France, les Français ont laissé par maladresse fuiter des informations qui lui ont coûté la vie. Donc globalement, la France est un objet de rire dans les services de renseignement soviétiques puis russes. On se moque de la France.
On se moque de la France.
Et donc, quand on est un Russe qui veut trahir son pays, on va pas vers les Français, on va plutôt vers les Britanniques Américains. Ou les Américains qui, eux, ont plutôt la réputation d'avoir su protéger ceux qui les ont choisis.
Vous allez trouver ma question basique, mais on sait que Vladimir Poutine n'apprécie pas les fuites. Je vous vois sourire, vous me voyez venir avec ma question. Est-ce que vous craignez un petit peu pour votre sécurité, pour votre travail en tant que journaliste ?
C'est évidemment une question qui se pose depuis le départ.
Vous êtes donc posé la question ?
Oui, depuis le début, depuis le premier jour où j'ai décidé d'enquêter et de raconter un jour cette histoire. Côté russe, la menace, elle est physique. Ce qui est certain, c'est que je suis probablement pas pour eux, en termes d'exécution, une priorité. Ils ont déjà plein de citoyens russes qui cherchent à exterminer. Je serai pas le premier sur la liste.
C'est complètement fou ce que vous dites là.
J'arriverai globalement assez tard. Il y a un autre type de risque qui est plutôt lié aux Français. Les services de renseignement français pourraient considérer que certaines des choses que je révèle sur leurs propres pratiques tombent sous le coup de la loi. Et donc là, il y a plutôt un risque juridique. Dans les deux cas, je suis un journaliste qui travaille sur des sujets sensibles et ça fait partie de mon travail.
Vous parlez d'extermination, de risque d'exécution avec un ton très détaché, Romain Mielcarec.
Ouais, encore une fois, ça fait partie de mon travail. Les services de renseignement russes, si on reste sur ce sujet-là, sont extrêmement violents. Ils n'ont cessé de multiplier les meurtres et les tentatives de meurtre, parfois dans des conditions dures. Ils recourent à du poison, ils recourent à des exécutions en pleine rue, ils recourent à des irradiations. On a eu des tas de cas, pas toujours très finement. Donc, on a eu plein d'exemples où les gens ont agonisé pendant des jours. Donc effectivement, ça fait partie des réalités de ce sujet-là. Ouais.
Et on a une grande pensée pour tous les journalistes en Russie qui exercent leur métier, qui prônent la liberté et qui aujourd'hui prennent des risques.
Et clairement, qui sont beaucoup plus en danger que moi, je ne le serai jamais.
Merci beaucoup, Romain Mielkarek. Les Moudjiks, la France dans les griffes des espions russes, c'est publié chez De Noël et c'est vraiment passionnant. Romain Mielkarek, bravo pour cette très belle enquête. Je ne sais pas si vous écoutez le podcast Focus, mais vous pouvez prolonger le sujet en écoutant Marion Calais, qui a consacré un épisode au grand retour des espions russes depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est sur l'application RTL. Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de changement de nom a été simplifiée. 1,8 million de Français pourraient être intéressés. Julia et Enzo ont d'ores et déjà changé de nom. Vous saurez pourquoi dans quelques secondes. Ils témoignent dans Focus Dimanche sur cette loi avec la chanteuse Nolwenn Leroy. Et c'est dans quelques secondes sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de changement de nom a été simplifiée. 1,8 million de Français pourraient être intéressés. Julia et Enzo ont d'ores et déjà changé de nom. Ils témoignent dans Focus Dimanche sur RTL avec la chanteuse qu'on adore sur RTL, Nolwenn Leroy. Bonjour Nolwenn, bonjour Julia, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
On a réuni un très beau plateau pour évoquer le sujet du changement de nom qui va toucher beaucoup, beaucoup de Français, des centaines de milliers de Français sans doute. Ce processus de changement de nom, c'était en vertu d'une loi souhaitée par le ministre Éric Dupond-Moretti. On écoute le garde des Sceaux.
Pour les mineurs, on va prendre l'exemple le plus classique. Une maman élève seule son garçon qui porte le nom de son père. Et quand elle veut l'inscrire au violon, au judo ou à la cantine scolaire, on lui dit « Mais madame, est-ce que ce petit garçon est votre fils ?» Et elle doit exhiber le livret de famille. Et c'est compliqué, ça. Il y a quelque chose d'humiliant dans cette démarche. Et donc, la loi permettra que l'enfant puisse porter, mais à titre d'usage, le nom ne peut pas être modifié s'il s'agit d'un mineur. À titre d'usage, il pourra soit porter le nom de la maman, soit on adjoindra le nom de la maman à celui du papa, soit on modifiera l'ordre des noms de famille. Il faudra demander l'accord du mineur de plus de 13 ans, parce qu'au fond, cet enfant peut se sentir bien avec son nom, qu'il faut lui demander son avis. On ne demandera pas l'accord de l'enfant s'il a moins de 13 ans, mais il faudra l'accord des deux parents. Il ne s'agit pas d'ostraciser. Et si jamais il n'y a pas d'accord entre les parents, naturellement, recours au juge. Et pour les majeurs, on a au fond les mêmes dispositions qui seront introduites dans le code civil.
Nolwenn, vous avez salué sur Instagram cette nouvelle loi. Enfin, la nouvelle loi permettra à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir le faire, porter le nom de ma maman. C'est ce que je voulais pour lui rendre hommage. C'est ce que vous avez dit.
Absolument. Moi, c'est vrai que mon cas s'inscrit totalement dans ce que vient d'expliquer Monsieur le ministre, j'étais élevée par ma maman. Après, il s'avère que moi, je n'ai pas eu à avoir recours à cette loi qui n'existait pas encore. Oui. Mais je n'ai pas officiellement entamé une démarche comme celle-ci, puisque j'ai la chance de faire un métier public
avec
où j'ai un pseudo, un nom de scène, qui finalement aujourd'hui est devenu presque mon nom. On m'appelle plus par le nom de ma maman finalement que par mon nom officiel. C'était important aussi pour moi de garder le même nom que ma petite sœur également. Donc c'est vrai que je n'ai pas du tout entamé cette démarche, mais c'est vrai que je trouve ça tellement tellement important, et parce que j'ai pu ressentir effectivement ce que ressentent beaucoup d'enfants à un moment donné, qui ont parfois des histoires comme celle-ci, et puis d'autres histoires même parfois dramatiques. Mais de pouvoir faire cette démarche, je trouve ça fabuleux, et je pense que ça va réjouir vraiment beaucoup de gens.
Nolwenn, vous
venez de le dire avec beaucoup de sincérité. Vous, vous avez une chance, c'est que vous bénéficiez d'un nom de scène. Vous êtes une star de la musique française désormais. Vous l'aviez évoqué, votre histoire, à la suite du divorce de vos parents. Vous aviez été confronté à la précarité, l'absence de votre père. On va écouter dans quelques secondes Julia et Enzo, qui ont vécu des histoires différentes, aussi difficiles, voire plus. Mais vous la ressentez, cette tristesse, chez certains enfants qui, avec cette nouvelle loi, vont pouvoir peut-être reprendre le fil de leur vie?
Bien sûr. Moi, j'ai eu la chance, justement, j'aurais pu me retrouver dans cette situation. Ouais. J'ai eu la chance de pouvoir aller vivre chez ma grand-mère. Du jour au lendemain, on va dire, notre vie a basculé. Et c'est vrai que c'est un hommage aussi que je souhaitais rendre à ma maman qui s'est retrouvée en situation de galère, on peut le dire, avec ses deux filles. Et porter le nom de ma maman à cet égard a été quelque chose d'important pour moi, et puis aussi parce que chez les Leroy, il y a eu beaucoup de filles, le nom s'arrêtait à cette génération, donc c'était aussi une façon pour moi de continuer à faire vivre le nom de mon grand-père pour que le nom ne s'éteigne pas, et d'avoir la possibilité en tant que maman aussi de transmettre son nom à son enfant. Je trouve que c'est quelque chose qui se fait naturellement en Espagne, où il y a le nom de la maman, le nom du papa. C'est vrai que moi j'ai toujours eu beaucoup de avec ça. Je trouve que c'est, on doit pouvoir avoir le choix et aussi de pouvoir régler certaines situations qui, pour que certaines personnes disent, oh ben, c'est pas grave, c'est un détail, ce n'est qu'un nom. Mais en fait non, il y a vraiment des situations dramatiques où non, ce n'est pas qu'un nom, et on doit porter ça toute sa vie, et à chaque instant de la vie, chaque moment, on doit prononcer son nom pour des démarches administratives ou autres. On se retrouve à chaque fois confronté à cette à quelque chose de douloureux et qui nous le rappelle sans cesse. Et c'est vrai que ce n'est pas un détail. Avec notre nom, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est plein de choses qu'englobe le nom, et c'est tout sauf un détail.
Nolwenn, vous restez encore quelques secondes avec nous pour écouter l'histoire de Julia et d'Enzo?
Avec plaisir.
C'est dans quelques secondes dans Focus Dimanche sur RTL.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Depuis la promulgation de la loi permettant le changement de nom, 1,8 million de Français envisagent de changer de nom. Déjà 4000 dossiers validés. Nous sommes toujours avec Nolwenn Leroy sur RTL, qui a soutenu cette loi. Parmi ces personnes qui ont déjà bénéficié de ces changements, il y a Enzo et Julia. Ils sont les invités de Focus Dimanche sur RTL. Enzo, pourquoi avoir changé de nom?
Parce que déjà, je n'ai plus vu mon père depuis mes 7 ans. Et en étant petit, il nous a violentés avec ma famille. Mais avec mon petit frère, on a dû y retourner de nos 2 ans jusqu'à nos 7 ans. Parce que le juge avait ordonné qu'on y aille pendant les vacances scolaires. Mais c'était devenu de pire en pire. Il mettait des cadenas sur les armoires pour nous empêcher de manger à notre faim. Il faisait du favoritisme avec ses autres enfants. Et sa nouvelle compagne l'avait initiée à boire, à fumer, et elle nous mettait des claques. Donc c'était plus possible à vivre pour des enfants. Donc mon frère a pris la parole et a dit à ma mère ce qui se passait. On a été porter plainte afin qu'on n'y va plus là-bas. Et puis après, on n'est plus jamais retourné.
Vous avez été victime de violences intrafamiliales. Enfant, ça a duré combien de temps?
J'ai commencé à avoir 1 an jusqu'à mes 3 ans. Après, on a fui le domicile. On est reparti chez nos grands-parents dans le Nord, et à partir de là, on est passé en jugement, mais on a dû quand même y retourner avec mon petit frère.
C'est la volonté de rompre les liens avec votre frère, jusqu'à la carte d'identité, jusqu'au passeport, jusqu'à votre nom, qui vous a fait entamer ce processus de changement?
C'est exact, c'est que je ne veux plus avoir de lien avec lui déjà, mais aussi parce que c'est pas quelqu'un qui m'a apporté quelque chose dans ma vie. C'est la seule personne qui a toujours tout fait pour moi, ça reste ma mère. C'est elle qui s'est battue pour nous, c'est elle qui a donné corps et âme. Elle a enchaîné 2 boulots pour pouvoir subvenir à nos besoins. Donc c'est elle qui a le mérite aujourd'hui qu'on porte son nom à elle, et pas celui de quelqu'un qui a jamais rien fait pour nous.
Elle a ressenti quoi, votre mère Lydie, en recevant votre carte d'identité avec le nom Hernandez?
La fierté, parce qu'elle voit enfin qu'on est heureux comme ça, nous, déjà, et qu'on puisse enfin avoir son nom de famille à elle.
Aujourd'hui, vous ressentez quoi avec ce nouveau nom et la possibilité de vous reconstruire avec votre grand frère?
C'est de la fierté et du bonheur, parce que ça nous permet, avec mon petit frère, de passer à autre chose, d'essayer d'oublier le passé, en tout cas. Aujourd'hui, je suis enfin heureux qu'on m'appelle par cette famille-là, et je ne suis plus triste qu'on m'appelle comme ça.
Nolwenn, quand vous écoutez le discours de Enzo, c'est extrêmement puissant, extrêmement émouvant.
Ah ouais, c'est bouleversant. C'est exactement ce dont je parlais, des situations dramatiques où effectivement, dans la construction de soi aussi, on en a à un moment donné, c'est à chaque fois... Ça prend telle proportion, là on parlait de ces vices corporels, forcément à chaque fois que le nom revient, en fait on revoit la personne et on revoit des instants, des moments comme ça de drame, et je comprends tout à fait cette démarche. C'est vrai que c'est forcément, c'est moi, ça ne peut que me toucher.
Enzo, quand vous étiez plaint, enfant, des violences que vous subissiez, pourtant, quelques années après, on vous a donné, j'ai envie de dire, la possibilité, et c'était une horreur pour vous d'aller revoir votre père, c'est-à-dire vous alliez en vacances chez lui.
On n'a pas le choix, c'est que comme le juge l'a ordonné, qu'il nous a dit qu'on devait y aller pendant les vacances scolaires, ben, il devait prendre les billets de train pour qu'on puisse aller là-bas, sauf que c'était l'enfer là-bas et que c'était de pire en pire, plus les années passaient, plus ça s'empirait. Et même sa famille ne bougeait pas le petit doigt pour essayer de nous aider. Et dernièrement, j'ai appris qu'ils étaient au courant plus de ce qui nous arrivait, qu'ils n'ont rien fait quand même. Donc c'est ça qui est le pire, je pense.
Vous l'avez informé de votre décision ?
Il a appris par... parce que j'ai fait plusieurs interviews, donc il l'a appris.
Ouais.
Sa nouvelle compagne m'a contacté, m'a demandé pourquoi je faisais ça, etc. Et après, il y a sa mère et sa sœur qui ont écrit des messages sur le collectif Porte mon nom en disant que je mentais pour essayer de le défendre.
4000 demandes enregistrées depuis juillet pour un changement de nom de famille. Cette loi qui facilite le changement de nom de famille entre en vigueur en juillet dernier, qui permet d'adopter ou de supprimer le nom d'un parent plus facilement. Des Français qui se sont rendus en mairie pour changer de patronyme, qui racontent leur parcours. C'est le cas aujourd'hui dans Focus Dimanche. Et c'est le cas notamment de Julia. Bonjour Julia.
Bonjour.
Vous faites partie de ces 4000 noms, Julia. Pourquoi ?
Alors en fait, moi j'ai une histoire qui est assez similaire à celle d'Enzo et à celle de beaucoup de gens qui ont fait la démarche, je pense. C'est-à-dire que mes parents ont divorcé très très tôt, j'ai eu très peu de contact avec mon père, malheureusement je porte son nom de famille. À chaque fois que j'ai essayé de le revoir en grandissant, ça s'est très 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 mal passé. Et c'était assez difficile pour moi en fait, dans toutes les démarches que j'ai toujours fait, d'avoir son nom. Moi j'ai été élevée par ma nanon et par mes grands-parents.
Oui.
Voilà, enfin moi je pense que... Ça aurait fait plaisir à... Pardon, j'ai toujours été émotionnée quand je parle de ça. Ça aurait fait plaisir à mes grands-parents que je porte leur nom. Et voilà quoi. Je devais changer de carte d'identité l'année prochaine. Et je me suis dit, quand j'ai entendu que la loi était passée en juillet, je me suis dit que c'était le moment de faire la démarche, que j'étais légitime aussi à demander ça, même si j'étais grande maintenant. Donc j'ai sauté le pas, j'en ai parlé à ma famille, ça s'est pas forcément très très bien passé de tous les côtés, parce que j'ai des demi-frères et du côté de mon père, et ils ont pas forcément compris la démarche. Mais maintenant, ils comprennent mieux, et ils sont contents pour moi que je fasse ça, quoi.
Vous avez dit depuis l'âge d'un an et demi, mon père ne s'est jamais occupé de nous. Les rares fois où j'ai eu un contact avec cette personne, ça s'est mal passé. Vous dites cette personne.
Oui, en fait, pour moi, un tata, c'est quelqu'un qui élève la personne, et en fait cette personne n'a jamais élevé, n'a jamais rien appris. En fait, moi j'ai été élevée par mon grand-père qui m'a donné des valeurs, qui m'a emmené en vacances, etc. Et en fait, voilà, les rares fois où j'ai vu mon père, c'était quelqu'un qui se tarnait de donner son avis sur des choses alors qu'en fait il était jamais 13 ans et qu'il ne connaissait rien de moi. Donc on n'avait aucune relation, et comme je vous disais, les rares fois où on s'est revus à l'âge adulte, c'était pour apprendre que alors moi j'ai eu relativement de la chance parce que j'ai pas été élevée avec lui, mais qui tâtait sur mes demi-frères et demi-sœurs, sur ma belle-mère, sur des jeux, voilà. Donc c'est pas quelqu'un de bien, on va dire.
Comme Nolwenn Leroy, qui elle bénéficie de ce nom de scène à travers ce processus, à travers ce changement de nom, vous rendez hommage à vos grands-parents, vous rendez hommage à votre mère. En fait, c'est plus une déclaration d'amour que de la rancœur.
Ah oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, alors lui, il l'a tri aussi. Et en fait, il l'a tri contre lui. Alors qu'en fait, effectivement, c'est pas une démarche contre lui. C'est une démarche déjà pour moi. Pour me sentir bien et pour que quand je donne ma carte d'identité ou je donne mon nom, que je sois fière de mon nom de famille, moi, et que je me reconnaisse dans ce nom de famille-là, en fait. Et si un jour j'ai des enfants ou si un jour, ils auront ce nom-là et je serai fière de leur transmettre.
Nolwenn, quand on entend ces histoires-là, on imagine que vous n'avez pas du tout vécu la même histoire, la même chose que Julia et Kenzo, mais c'est particulièrement éprouvant.
Bien sûr, mais moi c'est vrai que j'ai déjà l'impression d'avoir vécu des choses difficiles, des parents divorcés, comme beaucoup de malheureusement d'enfants en France. Mais c'est vrai que là on est un degré au-dessus. C'est vrai qu'ils ont des histoires vraiment terribles et c'est sûr que ça prend tout son sens cette loi encore plus avec leur histoire.
Un enfant sur 10 en France est victime d'inceste. Un enfant sur 4 en France est victime de violences sexuelles, physiques ou psychologiques. Et c'est sans doute pour ça aussi que 1,8 million de Français se posent la question aujourd'hui et que des milliers de dossiers ont été déposés. La procédure simplifiée de changement de nom est en vigueur depuis le 1er juillet 2022 en France. Elle est gratuite. Cette procédure est ouverte à toute personne majeure qui souhaite changer de nom pour prendre le nom du père ou de la mère, ou les deux noms à coller dans l'ordre choisi par le demandeur et dans la limite d'un nom pour chacun des parents. Et cette personne ne peut recourir à cette procédure simplifiée qu'une seule fois dans sa vie. Et souvent, Nolwenn, on le fait pas par envie ou parce qu'on se dispute avec ses parents, mais par choix définitif.
Bien sûr.
Voilà. Merci beaucoup, Nolwenn Leroy. Merci beaucoup, Julien. Merci, Enzo. Merci d'avoir été les invités de Focus Dimanche. C'était très fort, très puissant, vos discours à tous les trois. Et on espère qu'avec ces procédures de changement de nom, certains pourront bien évidemment se sentir beaucoup mieux.
Merci beaucoup. Merci.
La Coupe du Monde a lieu actuellement au Qatar, à Doha. La Fédération Française de Football refuse que les joueurs de l'équipe de France portent le brassard contre les discriminations, ce fameux brassard One Love au Qatar. Et pourtant, des présidents de clubs amateurs ont reçu l'ordre de porter ce brassard en match. Deux présidents amateurs prennent la parole dans Focus Dimanche. Ils sont en colère.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche. RTL.
Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi.
La Fédération Française de Football refuse que les joueurs de l'équipe de France portent le brassard contre les discriminations, ce fameux brassard One Love au Qatar, à Doha. Et pourtant, des présidents de clubs amateurs ont reçu l'ordre de porter ces brassards en match. Deux présidents amateurs prennent la parole dans Focus Dimanche. Ils sont en colère. Bonjour Samuel Lopez.
Bonjour.
Bonjour Cédric Garnier.
Bonjour à tous.
Samuel, vous êtes président du club de Verzon.
C'est ça.
Et Cédric, vous êtes président du club de Bretteville-sur-Odon.
Oui, tout à fait, Bretteville-sur-Odon.
D'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous êtes deux présidents de la région Normandie, hein. On est d'accord, Verzon et Bretteville, c'est vers où? C'est vers Caen?
Oui, tout à fait, on est limitrophes même, on est tous les deux en banlieue cadenaise et nos deux clubs sont voisins et amis aussi. C'est souvent des derbies, mais des derbies très corrects, on est amis, donc c'est marrant donc de se retrouver sur le même combat.
On recrée un derby à l'antenne dans Focus Dimanche sur RTL. Messieurs, je vous propose d'écouter Hugo Lloris, le capitaine des Bleus. Il était en conférence de presse il y a quelques jours, c'était avant le début de la Coupe du Monde, il faut le signaler. On lui pose la question de savoir s'il accepterait de porter ce fameux brassard One Love contre les discriminations pendant les matchs de la Coupe du Monde.
Bah déjà, avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA, l'accord de la fédération. Après, sur le sujet, bien sûr, j'ai mon opinion personnelle et ça rejoint un petit peu celle du président. Lorsqu'on est en France, lorsqu'on accueille des étrangers, on a souvent l'envie qui se prête à nos règles, qui respecte notre culture. Mais j'en ferai de même lorsque j'irai au Qatar. Donc après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, mais je dois montrer du respect par rapport à ça.
Alors même si Hugo Lloris ne dit pas ça, on rappelle quand même que l'homophobie n'est pas une idée, mais un délit. Ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est une lettre de Noël Le Graët qui vous a été envoyée, Samuel, Cédric, le 15 novembre, et qui vous demande, alors là, vraiment, il faut être assis sur une chaise, il faut être vraiment posé, qui vous demande de porter ces brassards One Love dans les matchs de district. Samuel, c'est bien ça?
Ouais, effectivement, on a reçu un courrier la semaine dernière avec les deux brassards One Love, nous incitant donc à les porter lors de nos matchs en région.
Et donc, vous, on vous demande aujourd'hui que vos capitaines portent ce brassard One Love alors qu'Hugo Lloris ou encore Benjamin Pavard ou Raphaël Varane ne portent pas ce brassard à Doha, pendant la Coupe du Monde.
Oui, tout à fait. C'est ce que disait Samuel tout à l'heure. On nous demande gentiment de porter ce brassard, de montrer l'exemple, chose que ne peut pas faire le monde professionnel, alors que c'est de la diplomatie, à l'extérieur d'un pays, contre des discriminations, donc contre lesquelles on lutte tous au quotidien. Être président de club de foot, comme n'importe quelle association, c'est rassembler les gens. Donc c'est lutter contre tout type de discrimination, quelle qu'elle soit. Et là, on se retrouve encouragé vivement par notre chère Fédération Française de Football, à porter ce truc-là. Donc on va le faire parce que c'est important, c'est notre combat au quotidien. Mais l'exemple doit venir en haut. Samuel l'a très bien dit dans les articles précédents. L'exemple doit venir en haut. J'ai l'impression vraiment que la Fédé s'achète une conscience. Et pour moi, c'est un contre-feu et qui risque d'avoir un effet boomerang assez catastrophique. C'est à la fédération d'assumer. La meilleure place pour assumer ça, c'est d'être au Qatar. Ils y sont. Alors plutôt que de passer son temps au téléphone pendant les matchs, c'est peut-être bien de prendre la parole en public et de défendre ces valeurs-là.
Là, vous visez Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football. Samuel Lopez, à Verson, j'ai discuté avec un président de club amateur qui m'a dit, clairement, on nous prend vraiment pour des cons. L'exemple, il doit venir d'en haut, c'est toujours de là-haut que ça doit partir pour qu'ensuite on explique à nos jeunes licenciés qui ont 10 ans, 12 ans, qu'il faut aller dans ce sens, qu'il faut améliorer les choses, qu'il faut lutter contre les discriminations. On vous prend pour des cons, excusez-moi de vous poser la question comme ça, Samuel Lopez.
Alors, nous prendre pour des cons, l'image est peut-être un peu fort. Je pense qu'il y a un décalage entre le monde pro et le monde amateur. Nous, on le vit au quotidien, avec peu de moyens, bien évidemment, que ça soit communication ou financier. Et c'est vrai que, je me répète, l'exemple doit venir d'en haut. La Coupe du Monde, c'est la plus belle image pour justement faire passer un message.
Cédric Garnier, vous allez un petit peu plus loin. Vous dites c'est hypocrite. En clair, l'exemple, il doit venir de là-haut, ça on vient de l'évoquer. Mais après, c'est compliqué d'avoir des échanges avec les licenciés, avec les joueurs, avec les capitaines, quand nos stars ne font pas le geste de lancer le truc, quoi.
Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un comportement hypocrite dans cette démarche. Et ça montre surtout une déconnexion totale de nos instances. Samuel le disait très justement.
Comment vous luttez d'ailleurs ? Comment vous luttez, Cédric ?
Le but du club de foot, déjà, c'est de mélanger. On mélange les classes sociales, on mélange les personnes, on mélange le sport féminin, le sport partagé avec la section qu'on a dans plusieurs clubs dans la région. Voilà, on mélange le football. Le football, c'est ce que nous venait tous nous rassembler dans la rue. On mettait de ça quand on tapait dans un ballon et il n'y avait pas de classe sociale. Donc nous, c'est notre quotidien de faire vivre ça pour que cette équité soit totale partout et tout le temps. Donc c'est un travail au quotidien. C'est dès qu'on pourrait entendre le moindre mot, c'est de suite calmer, de suite expliquer, faire beaucoup de pédagogie, notamment avec les jeunes générations qui peuvent aussi être interpellées par certains comportements qu'ils voient des joueurs professionnels. On les voit dans les célébrations des buts, oui, mais aussi par des comportements racistes ou agressistes ou homophobes qu'on pourrait voir lors de certains matchs professionnels. D'ailleurs, quand vous êtes président, vous avez un rôle, vous avez accepté le job, même si c'est bénévole et qu'on gagne rien à part les embêtements, mais c'est notre boulot. Donc au quotidien, voilà, c'est d'être vigilant, c'est de sensibiliser aussi ses éducateurs, ses dirigeants. Toute la chaîne bénévolat du club de foot doit être vigilante à tous ces mouvements et nous faire remonter l'information au plus vite pour la régler.
Cédric, vous m'avez dit la fédération s'achète une conscience sur notre dos. Noël Le Graët doit assumer, c'est ce que vous dites, il doit prendre la parole au Qatar. Vous espérez une conférence de presse, un échange, qu'il s'intéresse un petit peu plus au football amateur sur ce point-là?
Je l'espère, mais c'est un doux rêve. Ça fait des années qu'il y a quand même un pouvoir Le Graët à la Fédération Française de Football. Ça fait des années qu'il y a des appels du pied du foot amateur en disant le foot amateur est malade. Il n'y a jamais de rédaction. Il y a un exemple qui me choque. On gagne la Coupe du Monde il y a 4 ans. La première chose qu'on nous propose, malgré l'argent qu'a gagné la Fédération Française de Football à ce moment-là, c'est 4 ballons Nike. Je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on va inciter les jeunes du foot amateur à venir faire taper la balle dans des ballons Nike parce que c'est le sponsor officiel. Donc voilà, il y a une déconnexion totale. Attendre une prise de parole, à mon avis, c'est un doux rêve. Je pense qu'il ne la prendra pas parce qu'il faut aussi avoir le courage pour prendre la parole. Et je suis pas sûr que tout le monde l'ait. Et voilà, moi, c'est ça que je trouve dommage. C'est que d'ailleurs, on nous met des courriers. Alors pour l'instant, c'est pas obligatoire. Mais on n'est pas à l'abri qu'ils rendent le port du brassard obligatoire et qu'on soit sanctionné d'une amende, parce qu'ils aiment bien prendre l'argent, d'une amende si on porte pas le brassard. Ça, c'est des choses qu'il faudra aussi surveiller dans l'avenir. Donc pour l'instant, c'est conseillé, mais on ne peut pas exclure que ce soit obligatoire.
Samuel Lopez, vous, le président de Verson, vous m'avez dit tout à l'heure, on n'a pas encore discuté de ça avec les licenciés. Dans cette lettre, il y a des propositions d'actions à initier au sein de vos clubs tout au long de la saison, et notamment organiser des ateliers pédagogiques, sensibilisation à la lutte contre l'homophobie, et organiser un match ou un tournoi ayant pour thème la promotion de la diversité. Vous allez discuter de ça avec vos licenciés dans les prochains jours, et vous allez leur dire quoi ?
Alors, en fait, on en discute déjà à chaque début de saison. Moi, je fais en sorte de réunir dans chaque catégorie les parents ainsi que les joueurs pour justement instaurer des règles de comportement et de tolérance. Maintenant, je ne sais pas si on organisera un tournoi ou des manifestations pour justement lutter contre ces discriminations. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le cadre des labels proposés par la Fédération française, il y a déjà un secteur où on doit travailler dessus. Donc ça, c'est déjà fait depuis de nombreuses années. Maintenant, est-ce qu'on aura le temps et les moyens d'organiser des manifestations pour lutter contre ces discriminations? Je suis pas sûr. Mais nous, on le fait au quotidien, bien évidemment.
Le prochain derby, il est pour quand entre Verson et Bretteville-sur-Redon?
Alors, chez les jeunes, certainement. Chez les seniors, pas pour le moment.
Qui va gagner chez les jeunes?
Peu importe, tant qu'ils prennent du plaisir. Voilà.
Oh, et... c'est beau. C'est très beau.
Non, mais en plus, on a la chance.
On est vraiment voisins.
Oui, vraiment voisins limitrophes et on s'entend vraiment bien.
En tout cas, je suis sûr que vous ne le pensez pas. Je suis sûr que vous espérez gagner en votre fort intérieur. Mais en tout cas, c'est très beau. Voilà. Merci à vous. Je rigole, bien évidemment.
C'est One Love.
Merci. C'est One Love. Bravo, Cédric Garnier. C'est excellent. Quelle chute. C'est magnifique. Pour terminer cet entretien, merci à vous, Cédric Garnier, président de Bretteville-sur-Odon. Merci à vous, Samuel Lopez, président de Verson. Et je vous souhaite plein de bonheur avec vos licenciés. Et juste un dernier mot, merci à vous deux. Parce que j'ai joué au football pendant de longues années. Vous êtes des présidents de football amateur. Vous ne gagnez rien. Et vous êtes là tous les dimanches, tous les samedis, à vous occuper des enfants. Et on a vraiment besoin de vous. Donc je tenais, par votre invitation aujourd'hui, à remercier tous ces présidents de district, tous ces présidents de clubs amateurs qui font un travail exceptionnel chaque week-end sur les terrains de Ligue 1, qui sont parfois insultés, malmenés. Et ce sont eux vraiment qui permettent à nos enfants de vivre, de rêver et de s'amuser chaque week-end. Merci à vous deux, vraiment.
Merci à vous pour l'invitation et merci pour le commentaire, c'est très gentil.
Merci Cédric Garnier, merci Samuel Lopez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Focus Dimanche sur RTL et je vous en remercie. Focus Dimanche, c'est votre émission, l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine chaque dimanche à 13h sur RTL et vous pouvez retrouver tous les jours le podcast Focus de la rédaction d'RTL qui décrypte une information. Et là, il y a un homme qui est entré en studio. Quel charisme! C'est l'invité de Bruno Guillon dans quelques secondes, c'est Laurent Deutsch. Salut Laurent.
Bonjour Mohamed, ça va?
Mon idole de jeunesse.
Écoute, je respecte tes choix.
Quel plaisir de t'avoir dans le studio de Focus Dimanche.
Partagé. Je suis très content de te rencontrer, puis surtout de travailler dans la même maison.
Ouais.
On est quelque part complices, quoi. On est dans la même équipe.
Et je t'écoute chaque jour.
Je te ferai des passes décisives.
Je t'écoute chaque jour avec ton podcast en plus.
Eh ben écoute,
m'as fait rêver avec Churchill il y a quelques jours.
Ouais, personnage. Bah c'est ça qui est bien avec ces personnages là, c'est que c'est des gens qu'on croit connaître, et puis de toute façon, tout d'un coup, on va encore plus loin parce qu'ils ont des côtés méconnus que j'ai découverts et qui m'ont surpris. Donc j'espère surprendre les auditeurs quand je les relate. À l'antenne.
Chaque jour, on entre dans l'histoire avec toi.
On entre dans l'histoire, mais là, tu m'en as raconté une énorme aussi, l'histoire. Ouais. On la garde pour plus tard, mais j'ai une révélation à faire à un ami qui nous écoute, d'ailleurs, Jamel Ben Salah. Il faut que je te raconte un truc incroyable au sujet de Mohamed Bouafsi.
Tu vas la faire chez Bruno Guillon.
Ouais, je la garde pour plus tard. J'ai une énorme révélation à faire. Alors, restez à l'antenne. J'ai un truc incroyable à vous dire au sujet de Mohamed Bouafsi, l'acteur, le prétendant acteur.
Ça va être une casserole, ça. Laurent Deutsch, tu es l'invité de Bruno Guillon dans Le Bon Dimanche Show. C'est dans quelques secondes. Ne ratez pas ça. Bon, tu vas être bien reçu par Bruno Guillon, on reste dans la même maison et on va se régaler dans Le Bon Dimanche Show. Mais avant ça, il y a les informations et RTL, il est 14h.